Quand je me suis intéressée de nouveau, je me suis penchée sur l'histoire coloniale de mon pays, la Réunion, j'ai voulu éviter l'exercice d'autosatisfaction qui consiste à me sentir grandi en accusant les autres d'être extrêmement méchants et brutaux, qui m'aurait rendu, moi, complètement innocente. Ça ne expliquait pas grand-chose pour moi. L'indignation, qui est une forme, je trouve, très très française du discours politique, était pour moi absolument pas satisfaisante. Comment faire l'effort de comprendre pourquoi et comment il y avait des choses qui s'organisaient, comment tenir compte de l'accident, de l'inattendu, tenir compte aussi de la peur, des complicités, des lâchetés, des moments de courage, et puis l'importance de noms, par exemple, dans l'histoire, des noms qui n'appartiennent pas justement à l'histoire officielle. Pour moi, j'ai grandi avec des noms, Alain Rouchot prononçait le nom de Diane Benfou, j'ai grandi avec celui-là, mais aussi des noms comme Simon Def, Djamila Bouyret, Toussaint Louverture. Donc c'est aussi, c'est à partir de terrains qui sont peut-être pas les mêmes. Et pour moi, la question de cette écriture de l'histoire est la violence de cette écriture. Aujourd'hui, il y a une surprise un peu autour de « mais pourquoi tant de retard en France pour écrire l'histoire de l'esclavage ou l'histoire du colonialisme ?» Plutôt que colonisation, je préfère dire colonialisme que colonisation. Et la surprise, notre surprise, je la trouve, moi, étonnante, parce que c'est une oubli de cette vérité énoncée par Walter Benjamin ou Frantz Fanon, c'est-à-dire que, en fait, finalement, l'écriture, l'histoire s'écrit toujours du côté des vainqueurs, et les mots, les paroles des anonymes, des disparus, des morts sans sépulture, des invisibles, c'est toujours un combat. On l'a su pour l'histoire des femmes, pour l'histoire des ouvriers, pour l'histoire des soldats morts dans les tranchées de la garde 14, c'est pas des paysans. Et la réécriture d'un récit national qui révèle toujours des troubles de mémoire, et aujourd'hui, ce que ça révèle, c'est les troubles de mémoire autour de l'esclavage et du colonialisme. Donc il n'y a rien vraiment de scandaleux dans ce retard, sauf à croire que les récits écrits en Europe ou même dans les pays indépendants qui se sont battus pour leur libération nationale ne se fondent pas toujours sur des ratures, des effacements et des masques. Même le récit national des indépendances, nous le savons, c'est des érasures et des masques. On peut parler du récit national qui s'est créé en Algérie ou en Inde. Et le récit national français, évidemment, nous intéresse. Mais moi, je me suis toujours intéressée à me mettre des deux côtés des choses et pas simplement d'un côté. C'est-à-dire de savoir aussi que je venais d'une société. Et c'est pas parce que cette société avait été construite par l'esclavage et le colonialisme que c'était une société harmonieuse et innocente où tous les gens étaient gentils les uns avec les autres. Alors, comment on parle du retour du colonial? Est-ce qu'il y a un retour du colonial aujourd'hui? Puis c'est le titre de la... Il y a toujours un vocabulaire, oui, ça c'est frappant, un vocabulaire, il y a des spectres, des fantômes, des cartographies qui se réorganisent, mais enfin, tout n'est quand même pas pareil. Moi, j'ai grandi dans un territoire qui était encore fortement marqué par le colonial, et il y a quand même une forte différence avec aujourd'hui. J'ai grandi dans un monde où finalement, par exemple, même un droit reconnu comme le droit de vote n'était pas complètement accepté, il n'a été accepté qu'à partir des années 80, dans un territoire qui appartient à la République française et dans une indifférence assez grande de la population française elle-même. Donc l'expression retour pourrait peut-être être un problématique parce qu'elle marginalise un peu les luttes des personnes, des gens, des groupes, des individus, des mouvements qui se sont battus justement contre le colonial et pour qu'on arrive à un moment aujourd'hui qui pourrait être appelé postcolonial, mais j'y reviendrai. Alors cette réaction contre ces réécritures dont il a été un peu question, moi j'en parlerai, je l'ai particulièrement noté à propos de la question de l'esclavage, mais même du colonialisme, comment cette frontière entre mémoire et histoire, quand on parle de mémoire et histoire, et qu'on redistribue chaque fois les frontières, et ce qu'on nous dit, enfin nous, votre mémoire est respectable, parce qu'aujourd'hui quand même on respecte notre mémoire, mais c'est quand même seulement sentiment, subjectivité, émotion. Nous, qui sommes du côté de l'histoire, nous cherchons la vérité. Non pas la froide vérité, c'est ce qu'on m'a dit, parce que quand même on a un cœur, mais l'objectif vérité. Donc se redéfinit chaque fois un partage, ici le sentiment et l'émotion, là la raison, ici le subjectif, là les faits, ici le monde terrestre, là le monde céleste. Donc les mots et la voix des opprimés, cette mémoire qui devient simplement histoire une fois que les savants s'en sont saisis, c'est bien ça la question qui se pose encore aujourd'hui. Pourquoi les luttes des esclaves, les luttes des colonisés sont renvoyées à la mémoire essentiellement et l'autre serait l'histoire? Comment va-t-on redonner une singularité au peuple des faits, aux individus niés, que l'histoire toujours traite en masse, en victime? Et c'est pour ça que pour moi, par exemple, la pétition Liberté pour l'histoire est peut-être aussi grave, sinon plus grave, que la loi de février, du 23 février 2005. Pourquoi je pourrais dire qu'elle est plus grave? Cette loi, dans cette pétition Liberté pour l'Histoire, contre les lois dites mémorielles, et qui défendait justement donc la liberté du chercheur où l'historien se posait de nouveau. Et alors j'ai bien étudié les 19 premiers signataires, il n'y en avait que deux qui avaient signé la pétition contre la loi de 23 février 2005. Donc on voyait bien que dans cette pétition Liberté pour l'Histoire, ce qui serait organisé là, ce qui est la cible, c'était la loi Taubira, la loi dite Taubira. Donc comment on voyait là ce qui serait organisé là, c'était vraiment de nouveau ce qui constitue l'histoire et ce qui ne constitue toujours pas de l'histoire. Dans cet exemple de l'esclavage particulièrement, il y a évidemment la longue histoire du silence en France et comprendre pourquoi ce silence s'est installé. Dès 1848, on ne parle plus jamais de la traite négrière et de l'esclavage. Pas un des grands récits nationaux ne parlera de traite et d'esclavage. Aucun des grands récits. Le colonial existe beaucoup plus que l'esclavage, le colonisé existe plus que l'esclave dans la pensée, dans la conscience, dans l'imaginaire français. Il y a eu un oubli, une érasure beaucoup plus grande de la figure de l'esclave, et ça serait peut-être à comprendre pourquoi ce point reste toujours le point le plus aveugle dans la pensée française. Donc dans l'exemple de l'esclavage, donc il y a ce silence, il y a les archives qui sont encore à creuser, on sait très peu de choses. Moi j'entends que de grandes simplifications, il y a tout à fait, et puis à travers cette question de qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que l'archive, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est illégitime. Et justement, dans ces mémoires, et les mémoires de l'esclavage et de la traite négrière, qui sont en fait l'archive des personnes qui ont été victimes de cette traite négrière et de l'esclavage, et qui sont entièrement négligées par l'histoire officielle. Donc je disais l'esclave qui est une figure encore plus invisible que le colonisé. L'esclavage existe. Comme on disait tout à l'heure, l'esclavage, de toute façon, c'est mal, il n'y a pas une personne qui vous dira que c'est bien. Donc c'est facile à condamner, ça ne paye pas de pain. L'esclave, lui, par contre, on n'en parle pas et on ne l'écoute pas. Donc cette logique de massification qui était peut-être à interroger. Donc ça, c'est des. Mais dans cette question de mémoire, je voudrais quand même signaler que le mémorial peut être aussi une prison. Dans l'île d'où je viens, on pourrait penser à une île qui voudrait se couvrir aujourd'hui de stèles et de monuments, puisque tellement de choses n'ont pas été dites et qu'elles seraient dites par les stèles et les monuments. Et moi, je voudrais suggérer que l'île elle-même est un monument, parce que sur cette île de la Réunion, l'histoire est inscrite de façon très claire. Toute la côte, c'est un chapelet de noms catholiques. Saint-Pierre, Saint-Philippe, Sainte-Anne, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Saint-Pierre, Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie. Et tout l'intérieur de l'île, c'est des noms malgaches, les noms que les esclaves marrons ont donnés à ces lieux. Pour moi, voilà, c'est un monument, cela suffit, ce n'est pas la peine de couvrir, d'exiger peut-être constamment des monuments. Donc de penser peut-être la question du monument à la mémoire. Alors dans tout cela, cette question que posait Zaya, qu'est-ce que c'est que ces études postcoloniales et qu'est-ce que apporterait une étude postcoloniale? Le postcolonial, moi je partirais, Zaya signalait Édouard Saïd, bien sûr. Mais je voulais parler après de tout le travail fait notamment par l'école britannique, pour l'appeler ainsi, celle de Stuart Hall, et qui vraiment travaille depuis bien plus longtemps même qu'Edward Said sur toutes ces questions, mais qui était moins connue, et qui part de la théorie de Gramsci et qui reprend la place et le rôle de la culture dans les luttes. Et comment pour donc le postcolonial ne signifie pas le moment, la temporalité, il n'y aura pas le précolonial, le colonial et le postcolonial, comme c'est souvent compris en France de manière littérale, mais comment le postcolonial signifie d'étudier les traces retravaillées et reconfigurées du colonial dans le présent. Ces traces qui ne sont pas en tant qu'elles-mêmes complètement là, pures, rien, mais elles ont été retravaillées et reconfigurées. Et ce retravail, cette reconfiguration, c'est cela aussi qu'il faut comprendre. Donc comment on est là en face de nouvelles mutations, de choses qui sont complètement et qu'on est constamment encore retravaillé par ce colonial? Comment il revient hanter le monde dans lequel nous vivons? Et comment? Et de faire quand même assez attention de ne pas lire les choses comme étant juste du colonial. C'est du postcolonial. On vous reviendra là-dessus. En France, il y a beaucoup d'arguments. J'étais encore dans un colloque à l'IEP sur pourquoi. Je sais pas, faut-il du postcolonial en France, ou ça s'appelait comme ça, je sais plus, enfin bon, le titre, enfin bon, bref. Et alors, il y avait des arguments, donc dans cet endroit très chic, tout ça. Alors oui, mais quand même, c'est anglo-saxon. C'est quand même anglo-saxon, et puis quand même, les grandes figures, c'est quand même des gens de la diaspora. c'est pas vraiment des Indiens, vous savez. C'est quand même des Indiens, mais ils vivent à New York. Et puis c'est peut-être des Noirs, mais ils vivent quand même aussi à Chicago ou ailleurs. Alors j'étais quand même assez frappée, j'ai fait quand même la remarque de cette renationalisation de la pensée, et notamment de la pensée française, ce terme d'anglo-saxon qui veut strictement rien dire, il n'y a pas un anglais qui est un anglo-saxon déjà, et je vois pas comment le pauvre Homi Bhabha ou Gayatri Spivak ou Achille Mbembe ou Stuart Hall sont devenus des anglo-saxons. Mais enfin, bon, déjà, donc comment ce terme d'anglo-saxon est revenu dans le vocabulaire français? Je vous assure, quand vous lisez les choses il y a 15 ans, on ne disait pas anglo-saxon. Anglo-saxon est revenu, et comme c'est lié dans le vocabulaire économique avec le néolibéralisme, tout de suite, évidemment, un soupçon est jeté sur cette théorie, puisqu'on dit qu'elle est anglo-saxonne, et que bon, anglo-saxon, c'est quand on parle du Financial Times, donc voilà. Et puis le terme de diaspora, je trouve ça assez frappant de dire, bon oui, mais Gayatri Spivak, elle vit à New York, mais cette renationalisation, c'est-à-dire seul l'Indien pourrait parler de l'Inde, donc seul l'Indien va parler, ou seul cette assignation à résidence qui ferait que, si, on a tellement connu ça dans le mouvement des femmes, c'est assez incroyable, quoi. Et comment, donc, et ce déni d'un certain cosmopolitisme de la théorie et d'un retour comme ça au territoire national, à la renationalisation. J'ai trouvé très frappant et je pense qu'il faudrait faire une histoire des 10 dernières années et de la renationalisation de la pensée française, comment la pensée française se renationalise et redevient française, sur le sol français. Donc de ce local qui se veut universel, ou de cet universel qui est en fait fortement territorialisé. Or, s'il y a un pays qui a vraiment peut-être besoin de ces études postcoloniales, ce serait peut-être bien la France. Je me souviens de la génération des colonisés qui est venue à Paris en 1930, toute cette génération dont on connaît surtout, bon, Aimé Césaire, ou Léopold Senghor, mais il y en avait quand même d'autres, quand ils rencontraient les écrivains et les poètes de la Harlem Renaissance, et qu'ils rencontraient aussi des gens qui venaient d'Afrique dite noire et des Antilles. Ces gens parlaient toujours des deux Frances, celles qui étaient à la colonie. Alors, je peux vous dire que quand vous venez de la colonie, on vous envoie la France la plus médiocre, la plus bête, la plus idiote. Il n'y a qu'à lire d'ailleurs toute la littérature coloniale pour savoir. Et je peux vous dire par exemple, même à l'île de la Réunion dans les années 60-70, on nous parlait tout le temps de la France, aucun des personnes qui constituaient à ce moment-là un renouvellement de la pensée française n'a même touché les rives de la Réunion. Ni Roland Barthes, ni Michel Foucault, certainement pas Lacan, personne. Personne. Il restait là-bas peut-être très lointain à l'horizon, par contre Guy Lux ou je ne sais pas qui, ça, on les avait à foison. Donc il faut savoir aussi cela, c'est-à-dire que quand même il y avait ces deux France, cette génération parlait des deux France, donc la France coloniale et la France pour eux qui étaient les idéaux de la Révolution et qu'ils acceptaient. Et ces deux espaces aujourd'hui, qui étaient un peu géographiquement séparés, ils sont de nouveau, ils sont maintenant sur le même sol, ils sont sur le sol de France. On pourrait dire, donc le colonial est revenu en France, il hante la France. Et justement, là, encore une petite parenthèse sur le thème de communautarisme, le premier communautarisme, c'est bien le communautarisme colonial. Le monde colonial, le monde des Blancs dans la colonie, est un monde extrêmement fermé sur lui-même, étroit, on va dans les mêmes clubs, on se marie ensemble. Le premier qui va coucher avec une indigène, c'est fini, on l'exclut, on lui dit « he's gone native », on disait en anglais, et en français, je sais pas, on devait avoir une expression. De toute façon, il n'y a qu'à relire même toute la littérature coloniale, c'est la littérature de l'interdit de franchir cette frontière, et que les Blancs doivent rester ensemble. Donc le monde colonial est un monde de communautarisme très fort, le monde blanc colonial, de communautarisme très fort. Et là, on voit revenir cette figure en France métropolitaine. Donc ce serait intéressant de voir la circulation de cette figure, de cette reconstitution d'un monde fermé sur lui-même. Donc quand je disais qu'en ce moment, donc le colonial est revenu, enfin le monde, cet imaginaire, cet espace, c'est aussi de repenser donc comment, à la fois il y a ces replis identitaires, qu'est-ce que c'est que ce communautarisme qui nous revient, comment il se reconstitue, si c'est les questions des traces retravaillées et reconfigurées du colonial dans un moment quand même où l'empire colonial, il y a quand même quelque chose qui s'est terminé. Et comment donc relire ces traces et les replis identitaires, la multiterritorialité, comment elle continue. Alors on sait, il y a eu quand même quelques critiques sur le monde, sur la théorie postcoloniale, notamment on a signalé déjà avec à propos d'Edouard Said d'orientalisme que Edouard Said reconstituait la figure de l'Europe de la même manière qu'il accusait l'Europe d'avoir construit l'Orient, il reconstituait une Europe complètement comme homogène et complètement entière. Or bon, et ça c'est alors Edouard Said d'ailleurs est revenu ensuite là-dessus, il a réexpliqué les choses en disant oui donc. Et on a Sanjay Subramanian qui est revenu là-dessus aussi récemment, sur comment malgré tout il y a une tentation de mettre le mal du côté de l'Occident. Alors l'Occident, le mal, l'arrogance, le reste c'est les victimes, donc la souffrance. Et on voit ce glissement est un vocabulaire problématique et une dépolitisation de la question, parce que si on avance constamment la souffrance, évidemment, ça fait appel à une politique de la compassion, une politique humanitaire, on est vu comme des malades. J'étais aussi par exemple la Grande Assemblée Générale du CRAN et un dirigeant de l'UMP est venu parler, s'adresser à cette assemblée, et il a dit j'entends votre souffrance. Et je l'entends, et nous sommes prêts à y répondre. Mais je me disais, mais on n'est pas des malades, on n'est pas là. On a demandé à aucun médecin de venir à notre chevet. C'est une demande citoyenne qui est faite. C'est une demande de qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté inégalitaire et cette république inégalitaire. Et donc comme ça, ce glissement. Donc ça, cette critique, il faut donc faire attention. Donc la deuxième chose, parfois peut-être aussi la critique a été faite, trop grande insistance sur les représentations, un manque d'historicité, une indifférence envers l'économie. Bon, qui sont des critiques tout à fait pertinentes, mais c'est des critiques très souvent complètement exagérées en France, puisque enfin on peut comme ça se frotter les mains et dire qu'on n'a rien à faire, surtout de cette théorie, qu'elle reste où elle est chez les anglo-saxons. Alors que finalement, donc, est-ce qu'il y a toujours des outils pertinents, puisque quand même cette théorie postcoloniale, est quand même, c'est les années 80, donc ça fait quand même très longtemps qu'il y a nombre de discussions, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Inde, en Angleterre ou aux États-Unis. Alors moi, malgré les critiques, pourquoi je pense que pour moi, en tout cas, c'est toujours pertinent comme outil. Je pense que, par exemple, la question que posait Gayatri Spivak, can the subaltern speak? Quelle est la parole du subaltern? Comment on l'entend? Et qu'elle est revenue, d'ailleurs, plusieurs fois sur cette question, sur sa réponse, reste tout à fait une question pertinente. Aussi, les apports, c'est que le colonial lui-même, le moment colonial ou le moment postcolonial est impossible à comprendre si on ne tient pas compte de plusieurs niveaux. Alors là, bon, d'accord, la critique contre pas assez d'historicité, mais en même temps, si on reste trop dans l'historicité ou l'économie, on manque complètement la dimension de tout ce qui est compté dans l'imaginaire, la poésie, la littérature, l'art, la circulation, les échanges, tout cela. Comment voir qu'il y a eu des textes poétiques qui étaient parfois beaucoup plus importants qu'un manifeste politique pour traduire un moment? Comment Cahier d'un retour au pays natal est beaucoup plus, par exemple, toujours un texte extrêmement marquant, frappant, et qui est comme manifeste que par exemple, un autre discours du Parti progressiste martiniquais que dirigeait Césaire. Donc c'est vraiment l'attention à tous ces niveaux. C'est redonner aussi à des termes leur poids, c'est-à-dire bon, les termes de opprimé, d'exploité, et non pas justement simplement donc de victime ou d'exclu, qui efface donc la violence à l'œuvre dans le monde. Revisiter aussi le postcolonial, enfin certains auteurs postcoloniaux qui m'accompagnent dans mon travail, c'est revisiter aussi, prendre de l'importance des choses de la vie, ce qui constitue le monde quotidien, le petit, l'immatériel justement, les peurs, les joies, les douleurs, le monde domestique, ces petites choses, les petits dieux, les petits riens de la vie, et justement qui constituent aussi le monde dans lequel nous vivons. Revisiter les notions comme la modernité, la citoyenneté, la liberté, l'égalité. On le sait, par exemple, tout ce travail sur la modernité, ou par exemple Dipresh Chakravarti qui propose de provincialiser l'Europe dans le monde, donc que l'Europe devienne une des provinces du monde et non plus le centre du monde. Et donc comment retravailler ça? Cet avènement de la modernité, retravailler comment les modernités ont émergé. Par exemple, se poser la question pourquoi dans le siècle des révolutions, et cela même chez les historiens marxistes comme Eric Hobsbawm, la révolution haïtienne n'est jamais signalée. On parle de la révolution anglaise, américaine et française, jamais la révolution haïtienne. Pourquoi cet effacement d'une révolution qui elle-même, justement, pourtant, proposait les idéaux que les autres aussi proposaient ? Quel est cet effacement? Qu'est-ce qui est effacé quand on efface la révolution haïtienne? Donc revoir, relire aussi toutes ces choses-là de manière absolument à partir du présent et non pas simplement d'aller retrouver l'archive que personne n'avait trouvée. Ce n'est pas ça l'approche postcoloniale. En France aujourd'hui, dans un contexte d'émeutes sociales, de xénophobie, de racisme, avec ces discussions sur une immigration choisie, ce que le monde colonial et le monde, dans ce que je disais tout à l'heure, dans le territoire de la République aujourd'hui, il y a toujours des espaces qui sont géographiquement excentrés, qui sont issus du monde de l'esclavagisme et du monde colonialiste, et qui sont les territoires de la France, des territoires dans la France. Et aujourd'hui, on a tendance, quand on parle de tout cela, à penser aux banlieues, simplement. Et peut-être que si on pensait aussi, si on considérait le monde à partir de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, ou de la Martinique ou de la Guadeloupe, et qu'on considérait la République, on verrait aussi, peut-être, un questionnement au cœur même de cette doctrine républicaine qui se veut universelle et égalitaire. Donc on est là vraiment au cœur, et c'est, je le disais, en France aujourd'hui, c'est exige, la France, la situation actuelle exige que le colonial soit repensé à partir de cette approche postcoloniale. Et comment, justement, dans cette réaction à laquelle on assiste, où on veut préserver le national, un national qui s'inscrit de nouveau sur le sol de la France, on est dans un retour à ce qui s'appelle la France, et la France qui est de nouveau les frontières, des frontières fermées, et celle, l'histoire de la France s'inscrit entre ces frontières, cette équivalence entre le territoire géographique et le territoire de l'écriture de l'histoire. L'approche donc postcoloniale, c'est aussi l'approche transversale, de faire attention peut-être aux échanges sud-sud, que le monde n'a pas tout le temps été organisé entre le nord et le sud, même pendant le moment colonial, même pendant l'empire colonial, il y avait des circulations. Tout le monde, tout ce qu'on a appelé, je ne sais pas moi, la résistance anticoloniale, s'est aussi organisé sud-sud. Tout le monde, je veux dire le monde, et retrouver, réorganiser ces cartographies, ces circulations, qui dessinent donc d'autres mondes, d'autres cartes que celles qui nous est imposée, c'est cela aussi que propose l'approche postcoloniale. Et c'est en cela aussi qu'elle nous fait déplacer notre vision parfois trop étroite, nous permet comme ça de revoir d'autres choses. On le voit, bon, c'est très frappant quand on est justement dans ces territoires, comment la France est tout à fait absolument dans une périphérie. Or, ces régions qui sont appelées les régions ultra-périphériques de l'Europe, donc la reconfiguration de l'espace à partir de Bruxelles, quand on est de l'autre côté, on voit que Bruxelles est absolument à l'ultra-périphérie de ces espaces. On le voit aussi, quand je disais de faire attention aux imaginaires, quand on voit la circulation, l'importance de formes qui sont ici exotiques, par exemple comme le cinéma de Bollywood, qui est perçu de manière complètement exotique en France, et qui, pour dans ces pays, disent des histoires qui sont importantes, apportent des imaginaires. Les films de Shah Rukh Khan ne sont pas simplement vus comme da-da-da-da-da, c'est vu aussi comme des histoires où on revisite l'histoire de la partition, on revisite l'histoire de ce que c'est qu'être indien, on revisite l'histoire. Alors évidemment, avec les limites, je ne dis pas, mais c'est quand même perçu autrement. C'est aussi, par exemple, les langues qui continuent à circuler, l'hindi qui continue à circuler, les choses. Prêtez attention à cela, prêtez attention à la circulation dans la cuisine, les choses qui constituent donc les imaginaires, autre chose que simplement le monde à partir de lequel on vit. C'est pour ça que je pense que l'approche postcoloniale est particulièrement et toujours assez pertinente pour penser le monde dans lequel on vit aujourd'hui, moi je ne sais pas pour la fin du XXIe siècle, enfin là, c'est là en ce moment, et par exemple de voir d'essayer de comprendre pourquoi l'enjeu des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et du colonialisme sont des enjeux contemporains, non pas parce que les gens sont attachés à ce passé, non pas parce que les gens ont la nostalgie et qu'ils veulent absolument avoir revenir montrer leur identité, mais parce que, justement, cela dit quelque chose de leur situation aujourd'hui. Quand les femmes antillaises parlent d'esclavage, quand celles qui travaillent comme femmes de salle dans les hôpitaux, elles ne se prennent pas pour des esclaves, elles ne sont pas des idiotes comme essayent de nous faire croire certains. Elles disent quelque chose de leur situation et du fait que, en tant que citoyennes, elles ne sont toujours pas considérées comme égales dans ce pays. Et pourtant d'avoir été dites citoyennes françaises. Quand elles disent cela, quand elles réutilisent cette mémoire de l'esclavage et de la traite négrière, elles disent quelque chose que, et si elles sont aujourd'hui citoyennes françaises, ce n'est pas parce que leurs ancêtres ont décidé un jour d'aller à la Martinique ou à la Guadeloupe comme ça, parce que finalement pourquoi pas aller vivre sur cette île tropicale, mais parce qu'ils ont été jetés dans les cales des bateaux, ils ont été déportés. Et que ça, c'est une histoire et une culture qui ne peut pas être réduite à l'histoire de la France hexagonale elle-même, et que cette histoire et cette culture constituent quelque chose à l'intérieur du récit national, et que le récit national doit être retransformé et réécrit pour entendre toutes ces voix, sans compter évidemment les voix des millions de gens morts sans sépulture, puisque les millions d'esclaves, les milliers d'esclaves qui sont morts sans sépulture, et qui ne seront jamais, qui resteront comme ça, ce trou béant, et qu'il faudra penser comme justement un silence qui restera un silence.